Surpris par la nuit.
Feuilleton Dogon, deuxième partie, une émission d'Antonin Potoski, réalisée par Pierre Villers. Nous sommes à Yoga Doguru, dans un village que nous ne voyons pas parce que nous sommes arrivés de nuit. Nous avons quitté Sangha au crépuscule. Notre chauffeur nous a posé au pied de la falaise, dans la plaine. On est monté à pied à peu près pendant une heure avec nos lampes de poche et on est arrivé dans ce village. C'est la plus belle nuit qu'on puisse avoir, c'est une nuit sans lune avec seulement les étoiles. Et la forme de la falaise, plus sombre que la nuit, qui se détache sur ce fond d'étoiles. On aperçoit juste les cases qui nous sont très proches, des greniers, et des cases en forme arrondie posées sur l'arête, quoi, sur le bord des rochers, juste avant le vide. Dans mon dos, il y a un très, très grand vide. Et on ne sait pas ce qu'on va apercevoir demain matin à l'aube. C'est ici qu'on vont avoir lieu les funérailles de Germaine Dieterlin. Quand on approche d'un village d'Ogon depuis la plaine, de jour, on ne le distingue pas des blocs de roches énormes tombés de la falaise parce que les cases ont la même couleur que la roche. Mais on a conscience du village, pas par la vue, mais par ce qu'on entend. C'est-à-dire qu'un village, c'est d'abord une boule de sons qui flotte au-dessus du village physique. Les sons de la vie du village sont répercutés sur la falaise. On a presque cette vision avec les oreilles d'une boule. Et plus on s'approche, plus on commence à voir réellement le village. Et à ce moment, cette espèce de vision des oreilles descend sur la vision réelle et se pose petit à petit sur les choses qui produisent ces sons. Ce village qui flotte se pose au fur et à mesure qu'on approche et les choses entendues se posent sur les choses vues qui produisent ces sons. Avant même de voir ce village que nous découvrirons demain matin au lever du soleil, on a la conscience que c'est un grand chamboulement. On sent que la terre a été remuée, que les choses ont débarroulé de la falaise. Et les cases épousent la forme des rochers. Le banco se glisse comme une chose qui a fondu le long des rochers. On a l'impression que c'est un grand bouillonnement qui s'est figé. Je pense souvent aux peuls qui vivent dans la plaine, qui sont l'ethnie des éleveurs, qui sont souvent embauchés par les Dogons pour s'occuper de leurs animaux. Quand ils montent vendre, apporter du lait ou vendre du lait au village, je pense à la sensation troublante qu'ils doivent avoir quand ils... Alors qu'eux viennent de la rationalité de l'islam, de la plaine, de cet espace ouvert, de cet espace clair et sur un seul plan, et quand ils rentrent dans cette organisation complètement organique, intérieure, mélangée, je pense en permanence à leurs troubles. Les Dogons utilisent l'écho de la voix sur la falaise pour faire leurs annonces publiques. Il y a un crieur public Il y a des points sur certains rochers du village qui permettent de communiquer d'un quartier à un autre en utilisant l'écho de la voix sur la falaise. Et alors le crieur, le soir, quand tous les gens sont rentrés des champs, quand tous les habitants sont au village, annonce par exemple que la prochaine fois que tel animal ira brouter dans les champs, la personne aura une contravention, qu'on a retrouvé une daba, un outil qui sert à cultiver et on peut venir la récupérer chez le chef du village, ou toutes sortes d'annonces publiques et puis aussi des annonces en cas d'accident, en cas de décès, pour ne pas inquiéter tout le village, on va faire des annonces dans la langue secrète que seuls les vieux peuvent comprendre. Et puis la seule lumière dans la plaine, c'est une lueur rouge sur tout un morceau d'horizon, un feu de brousse, loin dans la plaine.
Les falaises de Bandiagara s'étendent en demi-lune dans la boucle du Niger. Nous sommes ici, au sud de Tombouctou, pour citer un nom classique de l'Afrique française. Les dogons ne craignent pas le vertige. Dans toutes les anfractuosités, sur tous les redans de ces parois, ils ont aménagé des cimetières, des habitations et des greniers en cheminée d'usine. Ces villages comportent pourtant des places pour s'ébattre et des tambours en peau de rat ou de simple bâton rythment les danses des petits chevriers dont le métier n'est fait que de jeu. Comme vous le voyez, les routes nationales des dogons sont parfois pénibles pour le piéton.
Il est 6h30 du matin à Yougadogourou, le jour des funérailles de Germaine Dieterlin. Il n'y a pas de lever de soleil dans ce village. La longue falaise de Bandiagara, qui fait plus de 200 km de long, est orientée du nord-est au sud-ouest. Et donc on est plutôt orienté du côté sud. Donc le soleil se lève de l'autre côté quand on est dans un village à mi-hauteur. Quand on voit les premiers rayons du soleil, le jour est déjà levé depuis longtemps. Le jour se lève dans l'ombre pour nous. Et on commence à voir les premiers carrés de soleil sur les pans de roche qui surplombent le village. Et les garçons qui sont à côté de nous, les jeunes du village, viennent d'empêcher les femmes de faire un aller-retour vers la plaine parce que le matin, elles vont puiser de l'eau jusqu'en bas, très très loin. C'est ce qu'elles faisaient déjà hier soir quand on est monté à pied. Et parce que il voudrait qu'elle reste au village pour le coup d'envoi des funérailles. Et cela semble un peu perturber l'organisation du village parce que les funérailles ne commencent jamais le matin. Les jeunes ne semblent pas tout à fait prêts. On a l'impression que les gens vont essayer de repousser ce moment pour que cela ressemble le plus possible à de véritables funérailles. Le groupe de femmes qui est en train de descendre est furieux. Les garçons ont essayé de faire barrage pour les empêcher de descendre. Elles ont leur bidon en plastique sur la tête pour aller puiser de l'eau. Et elles en ont besoin pour leur journée. C'est comme ça tous les matins. Et c'est comme ça toute l'année. Et alors il y a un garçon qui s'est interposé. Elles ont forcé le barrage. Elles ont réussi à passer. Il y a un seau qui est tombé par terre. Et ça y est, elles sont descendues. Donc on attendra. Quand nous entendons les premiers coups de fusil, nous ne savons pas si nous devons aller dans le village, au-devant des Français, ou les attendre. Une file indienne de vieux, avec leurs fusils, passe devant nous, suivie par le caméraman et le preneur de son. Ils passent tout contre nous. Nous les saluons. Ils passent sans rien dire. Pas un mot. Alors nous les suivons, sans risquer d'apparaître à l'image. Ce n'est pas pratique du tout. Nous prenons le son en nous cachant derrière un rocher, comme des voleurs. Ils repassent devant nous. Nous fermons la procession qui remonte vers la place publique où les funérailles vont commencer. Anagale, le guide des Français qui a passé la nuit sur notre toit, se retourne devant nous et nous fait signe de partir avec des gestes clairs et violents. Emmanuel lui dit non, nous avons déjà prévenu le chef, tout est réglé.
Là, les gens partent tirer un coup, deux coups. Ça veut dire qu'ils partent chercher l'esprit de la personne qui est morte. Alors maintenant, on les ramène dans le village. Après, ils vont essayer de faire sortir des cadavres en question. Là, maintenant, ils demandent de ne pas venir enregistrer cela. Et c'est interdit pour nous de passer. J'ai dit, mais pour hier soir, on s'est compris. Ils nous disent de passer le matin. Alors, au moment où ça va commencer, il nous dit de ne pas vraiment nous mettre devant les films, mais il faudra les suivre juste à côté et enregistrer ce qui se passe. Hier, ça s'est passé comme ça, mais ce matin, personne ne nous a expliqué. Il dit, le chef du village devrait nous dire, est-ce que le chef du village n'a pas passé pour nous dire? J'ai dit non. Alors, j'ai dit, si c'est ça, où se trouve le chef du village? Moi, je vais voir le chef du village. Si c'est vous qui décidez, ou bien le chef du village qui décide. Alors si c'est le chef du village...
Parce que la personne à qui tu as parlé, c'est le guide de l'équipe de télé qui est venu.
Voilà, c'est l'équipe
qui n'apprécie pas que nous les suivions.
Voilà. Alors là maintenant, je vais voir le chef du village. Si c'est eux qui décident, ou bien les caméramans qui sont venus, c'est eux qui... les trois touristes qui décident. Là, en discutant, on verra. Maintenant, on va discuter avec le chef du village pour prendre la conclusion. Si c'est eux, on va l'appeler quelqu'un et dire ce qu'ils ont dit hier soir et ce qu'ils viennent de dire ce matin, c'est diamétralement opposé.
Nous arrivons sur la place du village, à mi-hauteur à peu près. On se rapproche du pan de falaise qui surplombe le village et... Le garçon qui nous accompagne vient chercher le chef pour régler cette question. Il semble que l'équipe de télé a demandé aux villageois que nous ne les suivions pas et que ce soit l'objet d'une négociation. Mais vraisemblablement, les villageois eux-mêmes, ça ne leur pose aucun problème. C'est toujours cette façon qu'ont les Blancs ou les Français de considérer que le village est à eux et de ne pas accepter ceux qui arriveraient. On retrouve cet esprit chez les touristes. En général, quand on arrive dans un village après un autre groupe, le groupe vous fusille de regard, ne vous salue même pas, vous réserve un accueil glacial comme s'il était chez lui dans ce village. Arrivé à l'entrée de la place publique, j'ai besoin d'une explication. L'accueil du soir, le mutisme du matin, la violence du guide, cela commence à faire beaucoup. Les Blancs et leurs guides sont de l'autre côté de la place publique. Emmanuel parle avec le chef, un long moment. Il a juste le temps de me traduire que le chef ne pose aucun problème, mais qu'il semble coincé par les Blancs. Le guide revient vers nous avec un air de tueur. Il nous dit de partir, que le village ne veut pas de nous. Je dis que nous sommes venus de France pour voir ces Français, qu'il faut que je parle au caméraman. Il arrive vers nous et dit « Vous ne pouvez pas agir contre la vie des villageois. C'est leur décision, c'est une cérémonie intime, ils l'ont décidé comme ça. Vous verrez pour cet après-midi, mais ce matin, vous ne pouvez pas y assister. » Je note la cérémonie intime au regard de ce que les porteuses d'eau en pensaient ce matin. Je dis « Monsieur, il me semble, j'ai cru comprendre que si les choses étaient claires entre nous, le village serait entièrement d'accord pour que nous suivions les funérailles. » Et il répond « Écoutez, c'est leur décision, ils ne veulent pas que vous assistiez aux funérailles ce matin, maintenant j'ai du travail. » Et il tourne les talons. Embarrassé, le chef nous demande d'attendre la prochaine cérémonie qui aura lieu dans l'après-midi. La mort dans l'âme, nous montons un peu plus haut dans le village, où le son de la place publique nous parvient. Nous captons l'ambiance, mais nous ne voyons rien. Je reste seul dans une ruelle avec Emmanuel. À mon retour chez les Dogons après un voyage en France, j'ai offert un feu d'artifice à mes amis. C'était un cylindre de poudre avec deux hélices. Nous avons attendu le soir pour le tirer. Nous sommes montés sur le toit d'une case au milieu du village. Il y avait un groupe de touristes installés un peu plus bas. Ils étaient en train de dîner. Les Dogons ne savaient pas ce qu'était un feu d'artifice. Paul a allumé la mèche. Nous nous sommes reculés. Le feu est monté dans le ciel en tournant avec un bruit d'hélicoptère. Il a changé de couleur plusieurs fois avant de s'éteindre et de retomber. C'était très réussi, il était monté très haut au-dessus du village, mais les Dogons n'ont pas pu savourer leur émerveillement, car les touristes français qui dînaient en bas se sont mis à gueuler « Espèce de con !» Les villageois qui étaient auprès d'eux ont été choqués parce que les Français se sont levés dès que nous avons tiré le feu et m'ont insulté. Les Dogons n'ont pas compris pourquoi, tout à coup, les étrangers étaient devenus furieux. Nous n'avons plus entendu les touristes. Leur réaction nous a un peu intimidés. Nous nous sommes mis à discuter juste derrière le mur de la cour du chef. Toute la soirée, des villageois ont défilé chez le chef pour raconter ce qu'ils avaient vu et lui demander ce que c'était. À travers le mur, mes amis entendaient et me traduisaient. Certains disaient qu'ils avaient vu une grande fleur de couleur dans le ciel, que c'était très beau. D'autres disaient que c'était un grand papillon qui s'était envolé dans la nuit. Ils demandaient au chef ce qu'il avait pensé et s'il savait ce que c'était. Toujours refroidi par la violence des Français, j'ai demandé si les villageois ne se plaignaient pas d'avoir eu peur. Non, ils n'avaient pas eu peur parce qu'ils avaient trouvé ça beau. Chacun avait une idée différente et ils discutaient les différentes versions de ce qu'ils avaient vu. Le lendemain matin, les gens qui ne s'étaient pas déplacés la nuit se sont rendus chez le chef et à travers le mur, nous avons continué à les entendre. Je sais ce qu'ont pensé ces Français. Ils font du tourisme culturel dans un monde en péril, préservé jusqu'à nos jours. Ils ont vu mon feu d'artifice comme un élément de notre modernité que j'introduisais au village en mettant en danger son équilibre. J'étais pour eux un jeune ignare qui piétinait des siècles de culture Dogon, une cosmogonie d'une extraordinaire richesse, avec mon feu d'artifice à la Walt Disney. C'était comme si j'avais distribué des casquettes de Mickey. Pour les Dogons, c'était juste une belle chose, extraordinaire, qui a trouvé plein de résonances dans leur imaginaire. Et ces touristes, pour leur confort moral, persuadés d'être dans un monde strictement traditionnel, parce qu'ils viennent d'un pays où un feu d'artifice est assez banal, n'avaient pas du tout envie d'en voir ici. Cela perturbait l'exotisme réussi de leur séjour en cosmogonie ancestrale. Leur attitude surtout niait radicalement l'imaginaire des Dogons, à la rencontre duquel ils avaient pourtant parcouru des milliers de kilomètres. Leurs émotions, leur faculté de voir de tous leurs yeux, de ressentir, de comprendre, de raconter, d'exister. Un peu au-dessus de la place publique, on ne la distingue pas, c'est toi qui me l'as montré, Emmanuel, cette énorme tortue couleur pierre dissimulée sous un énorme rocher. Elle est à l'ombre là, elle ne bouge pas, elle cligne des yeux en nous regardant. Elle est là depuis longtemps, cette tortue.
Oui, normalement dans les villages, dans tous les villages où ils doivent avoir quand même les hogons, obligatoirement, il doit avoir de la tortue.
C'est qui le hogon?
Le hogon, c'est le chef suprême du village, le plus âgé du village. Alors, une fois que le hogon vient au pouvoir, maintenant son repas, c'est toujours préparé par une fille vierge. Une fille vierge, c'est une fille qui est vraiment sacrée pour nous. Quand on dit sacrée, une fille qui n'est pas impure. Alors, en ce moment, le repas du hogon est toujours préparé par la fille vierge. Elle doit s'asseoir maintenant sur le dos de la tortue. Elle doit s'asseoir et elle prépare. Et une fois qu'elle prépare, elle doit d'abord donner la première tartine à la tortue. Si la tortue goûte, ça veut dire qu'il n'y a pas de saleté. Si la tortue refuse de manger, ça veut dire qu'il y a des poissons ou bien il y a des saletés pour pouvoir éliminer ou tiller les hogons. Oui, des poissons, mettre quelque chose dedans, mauvais. Et en ce moment, la tortue ne va pas goûter. Si la tortue ne goûte pas, les hogons aussi refusent. Maintenant, la tortue aussi joue un rôle très, très important. Et dans les villages, s'il y a d'autres maladies très, très graves, d'autres ils viennent gratter maintenant le dos de la tortue. En ce moment, ils vont essayer de mettre dans un récipient avec la racine des arbres ou bien racine des arbustes et ils vont piler avec un peu de banco rouge. Ils mélangent, ils doivent mettre maintenant dans un récipient et prendre l'eau là où les coqs et les poules prennent l'eau. En ce moment, ils vont mélanger avec ça. Et une fois que c'est prêt, maintenant, ils vont essayer de donner à la personne pour dire de boire ou bien de mettre dans telle partie, le lendemain. Maintenant, ils viendront voir la tortue. Si la tortue regarde, ça veut dire que c'est bien. Si la tortue refuse, ça veut dire que la maladie, ça ne va pas guérir si vite. C'est comme ça que les gens essaient de garder la tortue dans le village. Voilà un tout petit peu. C'est une femme qui est en train de préparer de la bière ici dans cette famille. À mon avis, ça c'est pour demain. Comme demain, il y aura la danse des masques et puis les gens qui vont tirer des fusils. Et la bière qu'elles sont en train de préparer, elles vont déposer au niveau de la place publique. Et tous les jeunes du village et les anciens qui vont prendre leurs flèches et les jeunes qui vont prendre leurs fusils. Et avant de rentrer à la place publique pour pouvoir sauter et tirer, ils doivent se saouler un peu avec de la bière. Normalement, la bière de Mille, ça a été préparée durant 3 jours. Le premier jour, elles chauffent l'eau. Deuxième jour, maintenant, elles vont essayer de mélanger la poudre de mil qu'elles ont écrasée. Et troisième jour, maintenant, elles vont essayer de mélanger la poudre et puis l'eau qui est acide. Et après, ils vont essayer de fermenter le troisième jour. Et c'est pour maintenant saouler et faire passer les choses pour avoir un très bon résultat. Voilà un tout petit peu de la famille où la dame est en train de préparer de la bière de mil. Merci.
National d'identité, permis de conduire, livret militaire, livret de pension civile ou militaire, carte professionnelle, carte scolaire ou universitaire, fiche jaune du race ou le carnet de famille uniquement en milieu rural. Dans les régions, les lieux de distribution sont fixés par les sous-préfets et affichés au niveau de chaque mairie. Alors, citoyens, l'avenir de votre commune ne dépend que de vous. Sortez et allez tous voter le 30 mai 2004. Ka maw sugandi cɛw ni musow k'olu kɛ aw ka komini ɲɛmaw ye a ye wele kabini sisan ka taa aw ka wote kɛ sɛbɛn ta carte d'identité walima permis n'o ye mobili boli sɛbɛn ye walima livret militaire n'o ye sɔrasiw ka sarata sɛbɛn ye walima livret de pension civile ou militaire n'o ye kalo saba sarata sɛbɛn ye
Aujourd'hui, grande, belle, atroce journée sahélienne, paysage blanchi, presque effacé par la poussière en suspension dans l'air, chaleur intolérable. Je suis monté à Gagny avec Paul et Sébastien. Paul avait emporté la radio de son père. Nous marchions sur la roche enflammée dans ce paysage hivernal, avec le souffle de la radio allumée et des chansons en dogon diffusées depuis Koro dans la plaine. À Gagny, pas d'ombre en dehors d'un minuscule auvent à peine couvert avec des tiges de mil contre un mur. Nous avons passé plusieurs heures sur une natte, radio allumée, explosée de chaleur, à attendre le repas, attendre parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Je ne mange plus, je n'en ai plus envie. À trois sur une natte, il n'y a pas assez de place pour s'allonger sans déborder au soleil. On se cale les uns contre les autres. On trouve la position la moins inconfortable, selon celle qu'ont trouvé les autres, et le relief de la roche sous la natte. Je me suis allongé sur le côté, je n'ai plus bougé, la tête posée sur mon bras gauche dépassant de la natte, abasourdi. La radio, à un moment, n'a plus émis qu'un souffle qui ressemblait à un bruit d'eau vive. L'air même est émouvant. On est au cœur du continent. D'où qu'il vienne, chaque mètre de sable ou de roche brûlante l'a réchauffé. La nuit dernière n'a pas été fraîche. J'étais nu sur le toit. Le vent soufflait un air plus chaud que mon corps, comme celui d'un sèche-cheveux. C'était d'énormes masses de chaleur qui passaient sur moi comme des vagues, comme à l'océan lorsqu'on joue à se caler le dos contre le sable pour se sentir léché, écrasé par les rouleaux et regarder, d'en dessous, leur grand bouillon vert. Ici, je me cale face au grand bouillon étoilé de la nuit.
Germaine, c'est facile, mais ce n'est pas vraiment facile comme le nom du pays d'Ougon. C'est nous, si on dit vraiment un prénom ou un nom qui est compliqué, c'est comme une littérature. Nous, les Dougons, on parle beaucoup, mais pour lire, nous avons des difficultés. Dieu nous a donné les mêmes yeux, mais vraiment, ça colle pas. À cause de ça, j'ai dit Germain, mais les autres, c'est difficile.
Non, peut-être que le nom Dogon de Germaine Dieterlin est plus facile à prononcer, Emmanuel.
Oui, Yanoum, c'est plus facile à prononcer. Pour nous, pour dire Germain Dieterlin, c'est très compliqué à prononcer pour nous. C'est à cause de ça. On a des difficultés de prononcer Germain la suite, c'est compliqué. Comme vraiment,
racler les doigts. Il est très facile de manger, mais racler pour que ça soit propre, ça c'est autre chose.
Pendant la cérémonie, ce matin, Anagale, le guide des Français, est passé devant nous. Il a vu que nous enregistrions l'ambiance. Nous savons par des jeunes du village qu'il a raconté aux caméramans et aux gens qui l'entouraient que les villageois étaient choqués parce que nous prenions le son en violation de leurs décisions. Emmanuel avait raison, Anagale nous espionne. Il passe la journée allongé à faire semblant de siester sous notre hangar. Les trois Français sont plus haut dans le village, au niveau de la place publique, et le guide fait des allers-retours entre eux et nous. Vers midi, le chef vient nous voir. Il s'excuse officiellement de ce qui s'est passé ce matin. Il dit à Emmanuel que nous pouvons désormais assister à toutes les cérémonies. Tant que nous ne faisons pas de photos, nous pouvons tout enregistrer. L'espion est là, toute la journée. Je fais très attention à ce que tous mes propos restent objectifs. Et je dis au chef, « Pour nous, c'est grave que ces gens ne nous parlent pas. Nous sommes venus parce que Germaine Dieterlin est une femme respectée pour son travail en France et parce que notre radio a du respect pour le travail de ces Français. » Plus tard, à l'heure la plus chaude, des vieux viennent chercher Emmanuel. Ils m'appellent au bout d'un quart d'heure, je m'assois avec eux, à l'écart du hangar, sous un gros rocher en bordure du chemin. Emmanuel pense que les vieux sont sous l'influence des Français qui auraient appris par le guide que le chef était venu nous donner son accord. Il y a maintenant deux camps dans le village. Le camp de ces vieux, qui s'opposent à notre présence parce qu'on leur a dit ou parce qu'ils imaginent que nous aurions soudoyé le chef pour obtenir son accord, et le camp du chef, qui dit qu'il perdrait l'honneur si nous étions renvoyés, qu'il serait alors obligé de renvoyer l'équipe de télévision. Emmanuel dit que le problème est très sérieux, qu'il est en train d'enfler dans le village. Je demande alors de traduire que nous ne serions jamais venus si le caméraman ne m'avait pas dit au téléphone que nous pourrions prendre le son en restant derrière la caméra. Si notre présence crée un trop grand problème, ce sera très grave pour nous et pour notre travail, mais nous partirons. Emmanuel me demande de le laisser. Il dit que les vieux sont féroces et qu'il n'entrevoit pas de solution. Je suis agacé par l'hypocrisie de cette morale qui se met toujours à la place de l'autre, qui revendique toujours le point de vue de l'autre. C'est une cérémonie intime, c'est leur décision, c'est important pour eux. Je suis agacé aussi par l'idée qu'un blanc pose problème s'il apparaît dans le cadre d'un documentaire en pays dogon. C'est toujours ce fantasme d'un pays dogon sans blanc, sans musique moderne et sans matière plastique. Ce fantasme ethnographique qui tue la vie, qui fait qu'à Sanga, la culture des masques a été figée par les écrits des anthropologues, alors que dans les zones où l'anthropologie a peu opéré, les masques continuent d'évoluer comme depuis la nuit des temps. Et aussi, pour les villageois, l'absence de spectateurs blancs discrédite encore un peu plus l'événement. Si ce sont les funérailles d'une grande dame française, il devrait y avoir plein de blancs, de la famille et plein d'admirateurs. C'est ça qui ferait plaisir aux villageois. Voilà effectivement leur point de vue, plein de touristes. Amaigere Dolo arrive enfin de Sanga, au moment où nous sommes prêts à renoncer aux funérailles. Il ne réalise pas tout de suite la situation, il nous embrasse, alors ces funérailles, nous partageons une bouteille de bière. Je ne sais pas comment aborder le sujet car Anagale, l'espion, fait semblant de dormir dans le dos d'Amaigere. Je me lance dans les faits, je ne déborde pas une seconde de ces faits, je dis seulement à la fin, si ces Français veulent que nous partions, ils doivent nous le dire directement, sans se servir des villageois. Amaigere réfléchit, il est de Sanga, un témoin qui pourrait rapporter ce qu'il a vu ici, il a une cinquantaine d'années, il a réussi sa vie, il a de l'autorité. Il nous demande de le suivre, je pense que nous allons voir les Français, en montant vers la place publique, je me prépare à l'explication finale. Au fond de la place publique, sise entre deux énormes pans de roche, on trouve à droite la Casa Palabre, dite Toguna, et à gauche la concession, où, sous un hangar de paille, les Français attendent la reprise des funérailles.
Toguna, ce sont des piliers de grosses pierres montées les unes sur les autres, sur... disons 1,50 m, à peine 2 mètres. Alors attends, on va laisser le passage au monsieur. Et Et alors très très tôt, c'est le plafond est très très bas, c'est un plafond de grosses poutres, de branches, mais qui sont toutes noueuses, toutes qui ne sont pas du tout égalisées. Et au-dessus, à peu près 2 bons mètres de tiges de mil très denses, très très compressées, qui forment une grosse masse qui isole le dessous de la Toguna de la chaleur du soleil. C'est l'endroit le plus frais du village. C'est là qu'on vient faire la sieste quand il fait trop chaud. C'est là que les vieux viennent discuter. Et c'est là surtout, c'est le lieu du conseil de village. On entend quand on visite pour la première fois les villages d'Ogon que la Toguna est très très basse, parce que si on s'énerve, on se cogne. Donc c'est pour éviter que les gens se chauffent trop. C'est un lieu de haute diplomatie.